Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Agnès Fouilleux. Bonjour.
Bonjour.
Agnès Fouilleux, vous êtes réalisatrice de documentaires et vous êtes ici pour nous parler d'une projection qui aura lieu ce vendredi 21 décembre au cinéma Le Pestel à Die, d'un film que vous avez donc conçu et réalisé et qui s'intitule « Être plutôt qu'avoir ». En premier lieu, « Être plutôt qu'avoir », est-ce que c'est une réponse de ce film qui était sorti il y a une quinzaine d'années, qui s'appelait « Être et avoir » ?
Oui, alors juste pour préciser, avant de répondre à votre question, qu'il y aura à la projection donc, de vendredi soir, il y aura la présence de Philippe Mérieux, donc, qui est professeur émérite en sciences de l'éducation, qui est quelqu'un qui s'est beaucoup investi pour les pédagogies actives, et d'enseignants en pédagogie freinée. Voilà. Donc, qui font partie de l'ICEM Pédagogie Freinée, qui est l'association qui regroupe l'ensemble des enseignants qui travaillent en pédagogie freinée. Et donc, par rapport à votre question, oui, du titre, évidemment que c'est un clin d'œil à ce film de Nicolas Philibert qui est sorti dans les années 2000, en 2002, je crois, qui a été un vrai succès en salle, hein, qui a fait 1 million d'entrées, moi j'en suis pas là, et qui présentait une école rurale, en milieu rural, l'école d'un instituteur, une classe unique, voilà, et qui a été voilà, très, 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 très vue. Et c'est évidemment un clin d'œil à ce film-là, parce que ce que je propose dans le film est un petit peu un contre-pied à ce qui était proposé dans le film de Nicolas Philibert.
Un film qui parle d'une école, d'une classe. Comment est abordée l'approche de cette pédagogie ?
Alors, bon, on parlait du film de Nicolas Philibert, donc qui montrait une classe dans sa temporalité longue et dans, voilà, au fil des saisons, etc. Ce qui s'y passe dans la relation entre l'enseignant et puis les élèves. Moi, l'approche que j'ai eue dans ce film-là est un peu différente, puisque c'est plutôt un film de synthèse qui veut réinterroger l'école et l'éducation en général au vu de l'évolution de notre société en fait actuellement. Donc le film parle beaucoup des pédagogies actives, donc ce qu'on appelle les pédagogies actives, ce sont des pédagogies qui ont été inventées à la fin de la Première Guerre mondiale par un ensemble de gens. Au niveau mondial, il y a eu des tas de gens. Bon, on connaît bien Maria Montessori, on connaît bien Célestin Freinet. Il y a eu la pédagogie de Crowley, enfin, il y en a eu un tas en Europe. Et ces gens étaient avant tout des pacifistes et des gens qui avaient envie de changer l'école, de changer l'éducation pour bâtir une société de paix à la suite de la Première Guerre mondiale. Donc voilà, le film parle de ces pédagogies-là, il en parle à travers leur histoire et il en parle à travers aussi l'histoire récente et de l'évolution de notre société actuelle avec l'arrivée des écrans notamment et de ce monde numérique et d'une société un petit peu hors sol qu'on est en train de fabriquer et donc donne à voir un ensemble d'expériences et de façon de travailler d'enseignants de l'école publique et d'associations qui essayent de remettre au cœur de l'enseignement l'enfant et surtout l'enfant dans la dimension de quel citoyen il deviendra plus tard pour la société et qu'il soit aussi... par rapport au fait, c'est plein de choses. Hein. Enfin, le film aborde vraiment plein de choses. Mais aussi l'idée de penser la société comme quelque chose qu'on ne sait pas ce que ça va devenir actuellement. Enfin, on voit bien qu'on est dans la fin de quelque chose et que ce développement qui va venir d'une nouvelle société, l'enfant, il faut aussi qu'il puisse s'impliquer là-dedans et être capable d'inventer, être capable d'être curieux, être capable d'avoir de l'autonomie. Voilà, ça parle un petit peu de tout ça. Bon, il y a des tas de sujets qui sont abordés dans le film.
Comme vous le disiez à l'instant, donc tous ces types d'enseignements sont nés à l'issue de la Première Guerre mondiale. Quel est le bilan, un siècle plus tard, de ces structures ? Comment sont-elles perçues, déjà au niveau du public, mais aussi au niveau de l'État ?
Alors, moi, c'était un petit peu le but du film, c'était d'expliquer un peu ce que c'est, parce qu'on en parle beaucoup, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est souvent. Et puis de faire un petit peu aussi un état des lieux, on se rend compte que les pédagogies actives telles qu'elles ont été inventées en fait après la Première Guerre mondiale ont beaucoup infusé dans l'école publique. Enfin, on n'en est plus à l'école qui est montrée dans le film aussi de la fin du 19e siècle où on apprenait aux enfants des textes patriotiques, où on leur apprenait à marcher avec leurs fusils et où on les préparait déjà à cette Première Guerre mondiale. Évidemment que toutes ces pédagogies, elles ont largement infusé la société, mais aussi l'école. Quand on voit par exemple ces petits jeux pour les petits enfants où on empile des cubes, etc. Ben ça vient de Maria Montessori, on le sait peu, mais voilà, il y a des tas de choses qui ont infusé. C'est intéressant d'y revenir et de revenir sur l'historique parce que par exemple les propos de Célestin Freinet, donc qui est cet instituteur qui a inventé cette pédagogie, quand on entend les archives, enfin dans le film de ce qu'il dit, enfin c'est vraiment très très actuel. Il parle de la capacité de dire ce qu'on pense, de la capacité de lever le doigt par exemple dans une assemblée pour dire moi je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Enfin c'était quelqu'un de militant, c'était vraiment voilà, et tout ça, je pense que c'est des choses qu'on perd aujourd'hui dans notre société qui est une société de consommation, qui est une société d'individualisme social, comme l'explique Mérieux en fait dans le film. Et voilà, ça pose toutes ces questions-là qui sont larges mais qui sont intéressantes à poser aujourd'hui, je crois.
Qu'est-ce qui vous a, vous-même, Agnès Fouilleux, en tant que documentariste, à vous être intéressée sur ce sujet de l'école parallèle, quelque sorte?
Alors, pas que parallèle, parce que du coup, voilà, j'avais un peu perdu le fil de votre question. On se rend compte que l'école publique s'est emparée aussi de ces questions-là. Probablement trop peu, puisqu'on constate qu'il y a, notamment ici dans la vallée de la Drôme et un petit peu partout en France, la volonté d'un tas de gens, parents, éducateurs, d'essayer de proposer une alternative à l'école. Alors moi, je vois ça comme étant le pendant un petit peu de cet abandon par l'école publique de ces pédagogies-là, mais qui n'est pas complètement... D'ailleurs, j'ai sillonné toute la France avec le film pendant un an et les salles de cinéma sont remplies d'enseignants. Donc ça veut bien dire que ces questions-là les intéressent, qu'on a envie de faire changer les choses, mais l'institution a une inertie importante et c'est pas évident, voilà, la difficulté. Moi, la première question à chaque fois à la fin de la projection des enseignants, c'est de dire, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? Voilà, donc il y a tout un travail à faire et c'est ça qui est intéressant. Pourquoi moi, je me suis intéressée à ces questions-là? C'était un petit peu, mon précédent film, donc, qui s'appelait Small is Beautiful, qui était sorti au cinéma aussi, parlait d'agriculture, de politique agricole et d'environnement. C'était il y a quelques années. On voit que cette question-là est devenue un sujet de société. Les gens s'en sont emparés. Et petit à petit, on voit des changements autour de ces questions-là. Probablement trop lent, mais on voit quand même que les choses changent. L'éducation, l'école et la façon d'enseigner, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas encore suffisamment un problème de société. Et qui, les gens ne s'en sont pas encore suffisamment emparés, que ce soit les enseignants, que ce soit les parents, que ce soit l'ensemble de la société. On n'en parle pas assez, on n'en débat pas assez pour que ce soit, que ce soit un sujet. Donc moi, mon idée, c'était de mettre ça au devant de la scène pour dire, voilà, c'est un sujet sur lequel on peut débattre. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte en parcourant la France, donc avec le film, que c'est vraiment un sujet qui est intéressant, qui intéresse. Les gens viennent, on parle, les débats sont riches. Il y a vraiment des échanges possibles autour de cette question-là. Le fond de la question, c'est quelle société on veut fabriquer. Et je pense que ça concerne du coup tout le monde.
Alors, je reviens un peu sur le titre « Être plutôt qu'avoir », qui est un peu un pendant de ce film qui s'intitulait « Être et avoir ». Qu'est-ce que vous voulez signifier avec ce titre ?
Alors, le titre, c'est vraiment un clin d'œil. Hein, parce que dans le film, il y a plusieurs clins d'œil comme ça à des cinéastes ou au cinéma en général, notamment au film de Jean Vigo. Donc, Jean Vigo, qui était un cinéaste engagé dans les années 30, et qui est mort très jeune, mais qui a eu le temps de faire quelques films, notamment Zéro de conduite, un film un peu culte qui a déchaîné la critique et la censure à l'époque. Et son film donc a été censuré au moment où, c'est redit dans le film, au moment où Hitler a été nommé chancelier en Allemagne. Donc voilà, c'est tout ça, c'est des des choses qui se passent au même moment et qui sont intéressantes à regarder, et au regard aussi de ce qui se passe actuellement avec la montée des nationalismes. Alors le film, il parle vraiment d'école, il montre vraiment des enseignants qui travaillent, il montre vraiment des expériences d'éducation, mais il est aussi replacé dans ce contexte un petit peu global de notre société. C'est ça que je trouve un peu intéressant, c'est d'essayer de, dans l'expérience du particulier, des choses qu'on fait, de les replacer au niveau global, ça leur donne un éclairage qui est nouveau.
Comment s'est procédé la fabrication de ce film, les prises de contact avec des établissements?
Alors, c'était, déjà, Philippe Mérieux, donc, qui intervient vendredi soir au cinéma Le Pestel, qui sera donc là pour discuter avec les gens, pour vraiment échanger autour de ces questions-là. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce que c'est aussi un sujet un peu polémique, hein, parce qu'on parle d'écoles qui se montent un petit peu partout. Donc, c'est des écoles privées, donc associatives, souvent qui n'ont pas le sou, d'ailleurs, et pour qui c'est difficile de fonctionner, et qui se mettent en porte-à-faux avec l'école publique. Donc, c'est étonnant, parce qu'il y a deux courants là, qui, en fait, on voit que les gens qui sont dans les deux parties, finalement, se battent pour la même chose. Et donc moi, j'essaye de ne pas les mettre les uns contre les autres, parce que je pense qu'on est toujours plus fort à se réunir et pour se battre pour la même chose. Donc voilà, je pense que dans le débat de vendredi, cette question-là sera aussi présente, et tant mieux. Mais donc j'en reviens au film. Donc Philippe Mérieux intervient aussi dans le film, et c'est un petit peu le fil rouge, puisqu'il raconte un petit peu l'histoire de ces pédagogies actives qui partent de l'expérience, du fait de faire, donc qui est un petit peu, vraiment le fait de l'expérience, de toucher les choses, de les vivre, de les expérimenter. Enfin, l'expérimentation, c'est vraiment à la base de ces pédagogies-là, et l'autonomie, voilà, autour de l'expérience. Donc c'est à part de ça. Et on montre notamment, par exemple, une classe en zone d'éducation prioritaire, une classe de la classe de Ève Janvaux, donc qui est une institutrice en pédagogie freinée, qui fait un travail extraordinaire avec les moyens qu'elle a dans l'institution et ce qu'on lui donne, mais en appliquant ce que proposait Célestin Freiné il y a 70 ans, et qui est complètement valable aujourd'hui. Le film montre aussi le fonctionnement dans une école Montessori. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Quel est le travail qu'on peut faire avec les enfants autour de la relation à soi, de la relation aux autres et de la relation avec ce qui nous entoure. Et donc le film montre aussi des écoles qui travaillent plus particulièrement sur cette question-là, donc la relation à la nature notamment, en montrant des expériences qui existent très peu aujourd'hui en France. Il y en a un petit peu, de plus en plus, des associations qui montent qui proposent ça aux parents, mais plutôt en extrascolaire, qui est le contact avec la nature, donc l'immersion dans la nature, et qu'est-ce qu'offre au développement de l'enfant cette immersion-là, et le fait de se retrouver en contact direct avec l'eau, les éléments, grimper dans les arbres, toutes ces choses-là. Et donc je suis allée filmer pour ça dans une école en Suisse, en Suisse alémanique, parce que ces écoles-là sont développées beaucoup dans les pays nordiques, et puis on les trouve, les premières que j'ai trouvées, c'était plutôt en Suisse. Il y a aussi l'expérience de l'école des Amanins, donc qui est proche d'ici, de Isabelle Peloux, donc qui travaille, elle, autour de la pédagogie freinée, avec une dimension de la coopération qui est vraiment poussée dans ce qu'elle propose, et toujours dans ce lien avec la nature, avec qu'est-ce que on fait de ce qui nous entoure. Alors les prises de contact, c'était très simple, en fait. J'ai regardé un petit peu ce qui m'intéressait, ce que j'avais envie de montrer, donc de montrer ce travail autour de l'expérimentation, ce travail autour de la relation à soi-même, aux autres, et à la nature, à ce qui nous environne. Donc pas dans ce qui est des apprentissages classiques, plus académiques, on va dire. Et donc j'ai regardé un peu qui travaillait autour de ces questions-là et comment ça se présentait. Puis j'ai contacté les gens et j'ai essayé ça a été plus difficile avec l'éducation nationale, où j'ai eu du mal à obtenir des réponses, et où il y avait des expériences qui m'intéressaient beaucoup, que j'aurais aimé montrer dans ce film-là, et qui du coup j'ai dû montrer d'autres choses. Mais ce qui est montré, je pense, c'est intéressant, parce que en général ça interroge vraiment. On se dit c'est possible. Et c'est souvent ce que me disent les enseignants qui sortent des projections. Ça leur donne vraiment l'envie, en fait, de faire. Et on se rend compte que ça joue sur des petites choses. Avec des petites choses, on arrive à faire des grandes choses, en fait. Et ça, c'est vraiment le message, finalement, à la fin, qui ressort du film.
Comment peut-on signifier cette frilosité de l'éducation nationale vis-à-vis de ces structures un petit peu alternatives ?
Et je pense que l'école aujourd'hui, enfin l'éducation nationale, on voit bien dans le film, je fais référence à un rapport du SNESCO sur les inégalités à l'école. Et je pense que ce qui est vraiment fondamental aujourd'hui avec l'école et qui fait que l'école ne répond plus, peine à répondre aux attentes de ce qu'on y projette, c'est qu'elle elle est dans un schéma de reproduire les inégalités sociales. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est au centre, je pense, de cette remise en question. Quand on lit le rapport du SNESCO, j'en fais référence dans le film, le SNESCO, c'est le Centre National d'Évaluation du Système Scolaire. C'est très intéressant parce que c'est un ensemble de chercheurs, de sociologues, de psychologues, de toutes disciplines en fait, qui travaillent autour de la question de l'enseignement public et qui essayent de comprendre qu'est-ce qui s'y passe et où est-ce que c'est perfectible. Et c'est les rapports, notamment le rapport du SNESCO sur les inégalités à l'école, il est vraiment passionnant. Il est en ligne, il est disponible pour tout le monde. Mais on voit que ça peine dans un système où les gouvernements se succèdent et où, d'ailleurs, c'est constaté clairement dans ce rapport-là, que les mesures sont prises en surface toujours et peine à faire que le modèle change. Et notamment, on s'attaque toujours au contour, mais jamais à la pédagogie. Enfin, c'est ce qui est dit dans ce rapport-là. En fait, on refait la peinture des façades, mais on oublie de refaire le mur, quoi. C'est un petit peu ça. Et donc, je pense que la vraie question à poser aujourd'hui, elle est autour de qu'est-ce qu'on veut vraiment faire en termes de pédagogie et en termes de contenu de l'enseignement. Mais on voit que c'est aussi lié à l'histoire, parce que ce fonctionnement aujourd'hui, il est aussi lié à un modèle frontal d'enseignement, c'est-à-dire le maître et les enseignés. Et que quand on remonte dans l'histoire, c'est intéressant de constater que c'est l'Église catholique au XIXe siècle qui a choisi, qui a fait pression pour que politiquement on choisisse un modèle, donc ce modèle frontal dans lequel il y a un maître qui donne un enseignement où il n'y a pas d'échange entre les enseignés pour avancer ensemble dans une recherche. Et le second modèle, donc, où on est plus en coopération, ça s'appelle le modèle mutuel. Il y a eu ce choix à une époque politiquement de faire de choisir ce modèle frontal, donc de choisir un modèle d'enseignement plus pyramidal. Et c'est un peu ça que moi je pense aujourd'hui dans notre société qui est quand même, on demande de démocratie, on demande d'échange, on demande de coopération, qu'il faut remettre en question et re-questionner en tout cas.
Le titre « Être plutôt qu'avoir ». Qu'avoir quoi ?
Être plutôt qu'avoir. Alors là, évidemment, le titre est important. Et ça fait référence à cet individualisme social et cette société de consommation dans laquelle on est, qui est dans laquelle les écrans prennent de plus en plus de place, dans laquelle, quand on commence à regarder derrière les écrans ce qui se passe avec tous ces algorithmes prédictifs qui sont là pour nous rendre consommateurs, la question que je posais dans le film autour des écrans, c'est de dire, vis-à-vis de ce projet de l'école numérique, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a un projet d'école numérique, donc de donner des tablettes aux enfants à partir de 6 ans du CP pour que chacun travaille sur des tablettes. C'est vraiment l'anti-modèle, c'est l'antithèse totale de ce que proposaient les pacifistes dont je parlais au début de l'émission, qui étaient Freinet, Montessori, qui étaient vraiment de toucher l'objet, d'être en contact avec les choses et de faire les choses. Quand on fait les choses à travers un écran, on n'est pas en contact. Dans le film, à un moment donné, il y a un enfant qui ramasse les œufs à l'école des Amanins et qui dit « Ah, celui-là, il est tout chaud, il est graisseux ». Et toucher un œuf comme ça, sentir la chaleur de l'œuf, sentir sa texture, ça, c'est pas possible sur un écran. Et donc, de revenir à tout ça, revenir à l'expérience, revenir à ces choses-là, c'est compliqué dans nos sociétés. Parce qu'on est de plus en plus dans des sociétés où la technologie est un petit peu reine et où c'est plus simple de mettre des enfants devant des écrans que de les emmener au poulailler. Il faut traverser la route, il faut trouver un poulailler, il y a des normes d'hygiène, il y a des complications de toutes sortes qui font que le plus simple, c'est de se mettre devant un écran. Or, l'enseignement est la conséquence du fait de se mettre devant un écran pour regarder une poule et un œuf. Eh ben, ça n'est pas la même chose que de voir une vraie poule et un vrai œuf. Et c'est un petit peu toutes ces questions-là que je pose. Et c'est un peu vrai pour tout ce qui concerne le fonctionnement de nos sociétés actuellement. Si on regarde bien, on met tout le monde, l'élevage est hors sol, la culture de légumes est hors sol, on travaille dans des boîtes, on roule dans des caisses et les enfants, ils sont aussi de plus en plus hors sol. Et sauf que les enfants, entre 0 et 6 ou 8 ou 10 ans, tout ce qu'ils vont apprendre dans le contact avec la réalité, le contact avec le fait de toucher les choses, de les sentir, de les voir, de faire jouer tous leurs sens, c'est complètement différent de s'ils vivent ça à travers des écrans. Donc toutes ces questions-là, elles sont aussi posées dans le film.
Aujourd'hui, tout le monde pense qu'il y a un dieu quelque part qui aurait écrit des tables de la loi selon lesquelles, pour qu'il y ait un apprentissage et une école, il faut que tous les élèves soient du même âge, du même niveau, écoutent le même professeur en même temps et fassent les mêmes exercices au même moment. Or, nul n'a jamais écrit ça. Ça, c'est une forme historique déterminée et qui peut parfaitement être réinterrogée.
Il y a énormément de choix qu'on peut redonner aux enfants parce que c'est dans la liberté qu'on apprend le mieux, qu'on se développe le mieux. L'humain est un être social.
Cette semaine, c'est Wafi qui est responsable du concert.
Il y en a beaucoup qui jettent des chaises par terre et des cerceaux par terre.
Les relations sont ce qu'il y a de plus important.
Quand tu vois un môme, un arbre, le môme il monte dans l'arbre. C'est pas compliqué. Alors il faut le laisser monter dans l'arbre.
Puisque la planète est de plus en plus peuplée, qu'on sait que ses ressources sont limitées, il va falloir absolument qu'on coopère. Du coup, on va leur donner les outils de la coopération.
Ce film est présent Philippe Mérieux. Vous pourriez peut-être nous le présenter un peu plus longuement.
Alors, Philippe Mérieux, je ne connais pas précisément sa biographie, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui, je pense, a beaucoup évolué aussi sur ces questions-là, parce qu'il a pu, à un moment donné, être critiqué sur les prises de position qu'il a eues, puisqu'il a été aussi aux responsabilités à plusieurs reprises, donc en capacité d'essayer de faire bouger les choses. Je pense qu'aujourd'hui, mais il sera plus capable, lui, de le dire, dernièrement, il a sorti un dernier livre qui s'appelle La Riposte. Je pense qu'il s'affirme dans ses positions et c'est quelqu'un de très cultivé qui a vraiment une grande, grande, grande culture sur ces questions-là et qui a un recul et je le trouve passionnant. Quand il parle de tout ça, c'est quelqu'un qui connaît très bien son sujet, quoi.
Et donc, il sera présent le soir de cette projection, à la pré-projection.
Oui, voilà. Alors, en général, on regarde le film. Le film dure 1h30. Il y a plein de choses. C'est un film vraiment... je vous parle de plein de choses, mais c'est un film vraiment vivant dans lequel on voit beaucoup de choses. C'est assez riche. Et il pose beaucoup de questions, le film. Enfin, il y a beaucoup de questions qui sont posées tout au long de la projection. Et du coup, la discussion à la fin de la projection, ben, c'est l'occasion pour chacun de faire part d'une expérience, de discuter d'un sujet. Et en l'occurrence, quand il y a Philippe Mérieux aux projections, enfin, ça fait des débats qui sont vraiment passionnants parce que sa connaissance du sujet nous permet tous de devenir un petit peu plus intelligents quand on ressort de là et un peu plus informés. Et c'est vraiment passionnant.
Alors, je crois, vous disiez donc que vous aviez filmé une classe en Suisse alémanique pour ce film. Est-ce que vous avez aussi opéré auprès d'écoles en France qui auraient pu être intéressées de venir sur cette aventure, par exemple? Ou alors, est-ce qu'il y a beaucoup de difficultés pour produire un film avec une classe en France?
Alors, c'est pas tellement difficile. En plus, moi, je travaille vraiment comme un artisan. Donc, je travaille avec pas de moyens. Ça, c'est vrai pour mes trois précédents films qui sont sortis en salle. Donc, c'est moi qui les produis, qui les réalise, qui les distribue en salle. Alors, c'est pas forcément évident, mais c'est beaucoup de boulot. Mais on y arrive. Et puis, bon, ça permet de faire bouger aussi les choses. Donc, c'est positif. L'idée, en fait, elle était donc de parler un petit peu de l'historique de d'où viennent ces pédagogies actives, d'où vient l'école, comment elle a été construite et pourquoi elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Ça, je trouve que c'est toujours intéressant de faire un retour dans le passé pour voir, parce que ça nous donne en perspective plein de choses. Les classes, je les ai choisies un petit peu par rapport au travail et aux pédagogies qui étaient utilisées. Donc, il y a une classe freinée en zone d'éducation prioritaire. Il y a une classe Montessori, il y a la classe des Amanins qui était particulièrement intéressante et cette classe en Suisse notamment parce que c'était particulier de voir les enfants dans la nature, mais c'est plus des choix en fait par rapport au contenu, ce qui était proposé autour de, enfin moi l'idée elle était vraiment de voir comment on pouvait travailler autour de la question de la relation à soi toujours, de la relation à l'autre, donc la coopération, comment on apprend en fait à travailler ensemble. Parce qu'on se rend compte que beaucoup d'adultes dans notre société ont du mal en fait à faire ensemble. On nous apprend à avancer seul. Voilà, c'est plutôt le système scolaire et universitaire. Enfin voilà, c'est plus de la compétition que de la coopération en général. Et donc apprendre à faire ensemble, c'est fondamental. Et c'est vrai que ça fait pas les mêmes gens. Dans le monde du travail, quand on a appris à travailler ensemble et quand on ne l'a pas appris. Et puis, ce rapport à l'écologie, à la nature, à l'environnement, qu'est-ce qui fait que... Moi, la question que je me posais, c'était qu'est-ce qui fait qu'on puisse vivre dans nos sociétés de manière complètement schizophrène, avec ce mur, et en se disant, ben voilà, on a des problèmes, les enjeux climatiques, les problèmes environnementaux, etc. On continue comme si de rien n'était. Et la difficulté à faire bouger les choses, je me disais, est-ce que ça vient de la formation des gens? Est-ce que ça vient du fait qu'on leur a appris à ne pas être passif par rapport aux informations qu'on leur donne? Et que, justement, le fait... Voilà, c'est toute la question des pédagogies actives. C'est de dire, est-ce que comment apprendre à être actif par rapport à ce qui nous arrive, à être autonome, actif et à être capable de trouver des nouvelles solutions. Et donc c'est vraiment aujourd'hui, on est à un nœud de tout ça, dans une société où on voit bien c'est la fin de ce qu'on nous a proposé, ce modèle-là il est fini, on voit qu'il faut réinventer un nouveau modèle et les enfants d'aujourd'hui, eh ben, il faut qu'ils aient en main toutes les clés et toutes les possibilités d'apprendre et d'être curieux et de trouver des solutions nouvelles aux problèmes qu'on leur laissera notamment. Aussi, enfin, quand on parle de tablettes, on parle aussi de déchets électroniques, par exemple, basiquement. Si on imagine le nombre d'élèves qu'il y a en France et si on imagine le nombre de tablettes, et si on se dit qu'avec l'obsolescence programmée, ben, les tablettes, elles vont durer 3 ans, on peut, je ne sais pas combien de tonnes de déchets électroniques ça peut faire par année, mais c'est colossal, en fait. Et ça, c'est tout des questions à se poser. D'autant que, clairement, quand on regarde aussi les... C'est ça qui est intéressant, c'est que cette proposition d'école numérique, elle a été faite. C'est des expériences qui ont déjà eu lieu ailleurs, dans d'autres pays, et on se rend compte que ça n'a jamais été... pédagogiquement, c'est pas intéressant. Et donc, c'est étonnant. Alors, je pense que qu'est-ce qu'il y a derrière Est-ce que les lobbies de l'informatique sont là-dessus? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que moi, je voulais poser, parce que je trouve que c'est important que les gens sachent aussi, parce que... Enfin, il y a beaucoup de parents qui ne sont pas au courant, par exemple.
On peut peut-être rappeler quelle sera la place encore de l'enseignant avec le système d'éducation numérique.
Ah ben, alors l'enseignant dans ce système d'éducation numérique, il est vraiment, il garde sa place telle qu'elle est. Hein. Il n'est pas. Mais la question, c'est la question de l'outil, parce que cet outil-là, on nous le vend comme étant, voilà, plus de liens, etc. Moi, je pense pas que ce soit ça. Puis, je pense surtout que, c'est aussi une façon de nous accoutumer à devenir des bons consommateurs, parce qu'on voit bien que tout ce qu'il y a derrière ces systèmes numériques, Facebook, tous les GAFA, etc., c'est aussi une autre façon de penser qui nous est proposée malgré nous, quoi.
Est-ce qu'on peut y voir dans ces tablettes l'intrusion de la publicité aussi?
De toute façon, on voit bien, alors c'est encore autre chose, mais je pense qu'à l'école c'est différent, mais c'est évident que via l'écran aujourd'hui, c'est par là que le système marchand fait sa place. Donc les algorithmes prédictifs, c'est ça, hein, c'est des algorithmes qui sont capables de recueillir l'ensemble des informations, des recherches que vous faites, etc., pour être capable de vous proposer la bonne offre au bon moment, donc offre de consommation. Donc c'est déjà à l'heure actuelle, ça marche comme ça. Enfin, vous voyez bien que quand on ouvre l'ordinateur, eh ben, si on a commandé je ne sais pas quoi, on retrouve des pages de pub qui correspondent à... Ça ne vient pas de nulle part. Hein. Tout ça, c'est des fonctionnements. Mais c'est aussi des fonctionnements assez opaques. Enfin, là, on a vraiment quitté le thème de l'éducation. Hein, mais c'est en effet intéressant de se poser ces questions-là, parce que c'est des systèmes qui échappent à la transparence. Parce que tous ces algorithmes, on ne les connaît pas, on ne sait pas comment ils fonctionnent. Et il n'y a pas de contrôle là-dessus. Donc, c'est aussi de se dire qu'on a un pouvoir en tant que citoyen, hein, de changer de moteur de recherche, et éviter Google, toutes ces choses-là. Il y a plein de choses à faire. Moi, je ne suis pas une experte du tout, hein, dans ce domaine. Mais c'est évident que commencer à mettre des enfants, je veux dire, quand il y a l'Académie des sciences qui publie un rapport dans lequel ils disent qu'on peut mettre des enfants devant des tablettes à partir de 9 mois, ça a fait un tollé dans la communauté scientifique. Enfin, je veux dire, il y a un ensemble de chercheurs qui ont signé des tribunes pour dire que c'était un scandale, et c'est clair que c'en est un. Mais il y a aussi peu d'informations. Moi, j'ai beaucoup discuté avec des mamans dans des milieux un peu défavorisés autour de ces questions de l'écran. Elles sont peu informées et elles sont en demande, mais elles n'ont pas l'information facilement. On voit maintenant des médecins qui affichent ça dans leur salle d'attente, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un vrai problème, quoi. Les petits bébés, les petits enfants qu'on met devant des téléphones, parce que maintenant tout le monde est devant un écran. Et que non seulement ça crée des... Enfin, c'est pas positif, mais en plus c'est négatif, parce qu'il y a des tas d'études qui montrent que, par exemple, des parents qui sont collés sur leur téléphone ou sur leur tablette sont plus en interaction avec l'enfant. Du coup, le langage empathie, parce que c'est l'interaction qui crée aussi le langage, que l'enfant, il a besoin de bouger, il a besoin de... En fait, un enfant, ça c'est Serge Tisseron, donc, qui est un chercheur qui a pas mal travaillé sur ces questions-là, qui donne des âges et des possibilités avec les écrans. Donc il dit qu'en dessous de 6 ans, c'est quasiment pas d'écran, quoi, parce qu'avant 6 ans, un enfant, il a avant tout besoin d'expérimenter, de toucher, de sentir, d'écouter et de bouger avec son corps, d'utiliser son corps complètement. Un écran, ça nous fait utiliser le pouce et les yeux. Et puis après, il y a toute une dimension qui est importante, parce que malgré tout, les écrans sont omniprésent dans nos sociétés, c'est justement d'être capable d'aller chercher l'information au bon endroit. Il y a une étude du MIT aux États-Unis qui montrait l'incapacité d'étudiants, donc études supérieures, à être capable de trouver la source d'une information. Il leur avait fait passer des fausses informations, type celles qu'on peut trouver sur Facebook actuellement, et en leur demandant qu'est-ce que vous regardez pour être sûr que votre information est vraie. Et cette étude-là, elle montre que, on était quasiment à un état ils étaient incapables de trouver les bonnes informations, et donc incapables de savoir si une information était juste ou était une fake news, quoi. Donc c'est intéressant, parce que ça veut dire que on leur a pas appris à chercher d'où vient l'information, à se poser la question, ne serait-ce que ça, à se poser la question d'où vient cette information, qui a intérêt à la publier, qui la publie, et avec quoi elle est faite. Et tout ça, ben ça, c'est un apprentissage, je pense, qui est inévitable maintenant. Enfin, tous les enfants devraient être formés à ça, mais plus tard. Donc là, on tombe dans les enfants plutôt, voilà, entre 10 et 14 ans peut-être. Enfin, c'est des âges... Mais c'est évident que cette éducation à ces nouveaux médias, elle est nécessaire, parce que sinon, on devient voilà, la proie de Facebook et c'est terrible.
Au niveau de toutes ces écoles parallèles, inspirées de Freinet ou de Montessori, il y a une grande diversité au niveau des moyens en France de ces écoles.
Bah, pour le coup, ces pédagogies, elles sont quand même peu représentées à l'école publique essentiellement. Enfin, il y a une association maintenant qui s'appelle Public Montessori, donc des enseignantes en maternelle essentiellement, qui essayent de développer cette pédagogie de Maria Montessori pour les 3-6 ans. Maria Montessori avait vraiment développé cette pédagogie pour les 3-6 ans. Donc c'est vraiment de la manipulation d'objets, etc., du travail sur les sens. Et donc il y a maintenant des associations d'enseignantes qui, je dis enseignantes parce qu'il y a beaucoup d'enseignantes, mais qui essayent de travailler sur cette pédagogie-là en école maternelle, à l'école publique. Et puis il y a surtout qui est présent à l'école publique, ben l'ICEM Pédagogie Freinet. Donc l'ICEM c'est l'ensemble des enseignants qui travaillent en pédagogie Freinet. Et c'est vraiment génial la façon dont ils travaillent. Il faut savoir aussi que c'est des enseignants qui font ça sur leur temps libre. C'est-à-dire qu'ils sont, non seulement ils ne sont pas payés quand ils se forment à ces pédagogies-là, mais voilà, ça ne fait pas partie de leurs horaires de travail. Ils font ça sur leur week-end. C'est vraiment des gens passionnés. Il y a beaucoup d'enseignants aujourd'hui, voilà, qui essayent de faire le maximum pour avancer et pour proposer quelque chose de bien, quoi, de super. Et donc l'ICEM travaille, tous les enseignants en fait font de l'échange de pratiques, donc ils échangent leurs expériences, ils échangent leurs outils, ils font des marchés des connaissances dans lesquels ils échangent justement voilà, leur façon de fonctionner, et c'est une recherche coopérative, enfin vraiment un travail tous ensemble pour se former et pour avancer. Mais c'est pas beaucoup d'enseignants sur l'ensemble des enseignants, et il y a beaucoup d'enseignants qui savent même pas que ça existe, enfin qui pour des jeunes enseignants, on leur a pas appris que que c'était possible, et donc ça reste anecdotique en fait dans le même si ce que je vous disais est vrai aussi, c'est-à-dire que l'ensemble, enfin ces pédagogies ont infusé de toute façon partout. Enfin, il y a beaucoup d'enseignants qui travaillent un petit peu en Freinet, un petit peu en voilà, qui utilisent toutes ces outils-là de manière informelle et dans leur classe. Ouais. La limite de l'exercice, c'est qu'au-delà du fait que voilà, on n'est plus dans l'école publique, c'est-à-dire qu'on est dans un système qui est plus ouvert. J'ai envie de dire qui est plus de l'entre-soi en fait, qui est ouvert de fait, mais qui permet pas à tout le monde voilà, ou à des gens pas informés en tout cas d'être là, mais c'est aussi des endroits qui sont des laboratoires, parce qu'ils proposent des choses qui peuvent être super intéressantes quand on voit ben voilà, l'immersion dans la nature, etc. Donc c'est tout ça, et enfin moi je pense que tous ces modèles existent, et les moyens, c'est difficile. Enfin, pour les petites associations, on revient là-dessus. En général, c'est vraiment la galère, et souvent, les durées de vie ne sont pas très longues de ces associations-là. Et donc, moi, c'est pour ça que moi, mon propos, c'est de dire qu'il faut changer le système. Le système, globalement, pour que ce soit non seulement accessible à tout le monde, mais en plus que ce soit financé dans l'école publique. Et donc il faut aider les enseignants, parce qu'en fait les enseignants ils sont en demande par exemple de formation, ils sont en demande de plein de choses, et ils sont en demande de reconnaissance aussi, et ils font un super boulot, donc je pense qu'il faut aussi aller dans ce sens là mais bon, c'est tout un débat, moi j'ai pas la réponse en fait, hein, moi je constate, mon travail c'est ça, c'est de montrer ce qui existe, c'est de montrer ces laboratoires, parce qu'il y a des choses qui s'y passent qui sont intéressantes dans l'école privée enfin, sous contrat d'Isabelle Peloux, ben, il se passe plein de choses intéressantes, et je trouve que c'est riche de le montrer à des enseignants qui sont à l'école publique. Et à l'école publique, quand il y a plein de choses qui se passent qui sont intéressantes, et c'est aussi riche d'échanger. En fait, voilà, l'échange, il est intéressant dans tous les sens, et c'est intéressant de se parler, parce que quand on commence à se cloisonner les uns les autres, eh ben, on ne fait plus avancer les choses.
Lors de ce tournage, est-ce que vous avez croisé des enseignants heureux ?
Oui, bien sûr. J'ai croisé des enseignants heureux, bah notamment Ève Janvaux, qui moi m'a vraiment marquée parce que cette classe, donc je le répète, mais en zone d'éducation prioritaire et en pédagogie freinée, dans laquelle il n'y avait pas un bruit et dans laquelle, enfin, tout le monde est garant du silence, c'est-à-dire que tout le monde est responsable du silence et donc a autorité pour dire à son voisin, attention là tu m'embêtes, je peux pas travailler, tu fais trop de bruit. Et donc pour moi c'est la société en fait, c'est vraiment un apprentissage de la vie ensemble et de fonctionner ensemble dans le respect de chacun. Et cette classe, avec tous ces outils qu'elle propose, et puis son dynamisme et la vie, enfin, elle est super vivante et j'ai trouvé ça génial, quoi. Mais il y en a plein. Enfin, je veux dire, toutes les autres expériences sont du même type. Enfin, Isabelle Peloux, par exemple, aux Amanins, ce qu'elle propose, elle a une énergie pour le proposer qui est aussi géniale. Alors par contre, depuis que je passe le film, depuis que le film est diffusé en salle, il y a beaucoup, beaucoup d'enseignants. Moi, je n'avais pas fait ce film particulièrement pour les enseignants, mais les enseignants sont intéressés à venir le voir. Et ça, pour moi, c'est vraiment un signe de dynamisme, enfin de vie des enseignants, quoi. Mais ce que je constate toujours, c'est beaucoup de solitude. Mais que ce soit des parents, que ce soit des enseignants, que ce soit des écoles, des petites écoles associatives ou des écoles, voilà, tout le monde est dans son coin à regarder l'autre un peu en chien de faïence, alors que tout le monde a envie de la même chose. Et donc moi, c'est ce que j'essaye de dire à chacun, c'est regardons nos différences, mais regardons ce qui nous rejoint, ce qui nous relie, ce qui nous permet d'avancer ensemble. Et sur ces questions-là, il y a plein de choses. On est plus fort en fait face à l'institution aussi quand on se réunit. L'ICEM par exemple, les enseignants en freinée, ils sont plus forts ensemble que quand on est tout seul dans sa classe à vouloir innover quelque chose face à un inspecteur par exemple. Quand on est en groupe et c'est aussi le pendant de notre société individualiste et de consommation, c'est-à-dire qu'on finit seul. Alors que le collectif, la coopération, le fait de faire ensemble, ça permet d'avancer ensemble avec un projet. Et on n'est pas d'accord sur tout, mais ce n'est pas grave. On avance sur l'essentiel ensemble. Et ça, c'est aussi un des messages principaux en fait, que je voulais faire passer dans ce film-là.
Agnès Fouilleux, comment en êtes-vous arrivée à réaliser des documentaires ?
Alors moi, j'ai travaillé, j'ai fait plein de boulots différents et quand j'ai voulu travailler j'ai travaillé pas mal dans la presse écrite spécialisée, magazine, donc dans laquelle j'étais pigiste, je faisais des images et puis je me suis formée en formation continue à l'image et en fait, je trouvais que ça me permettait d'aborder un tas de sujets que j'avais envie d'aborder. C'est aussi pour ça que je suis artisan, parce que je suis un petit peu en marge du système, parce que ça me permet d'avoir la liberté d'aborder les thèmes que j'ai envie, de la manière dont j'ai envie. Donc ça, c'est une richesse incroyable, c'est que je peux dire, je peux aller chercher ce que je veux, dire ce que je veux, le raconter de la manière dont j'ai envie, en fait. Et du coup, j'en suis arrivée à une forme de cinéma qui est la mienne, qui est une forme qui je pense n'est pas du cinéma militant, mais qui est du cinéma. Enfin, moi, mon but, c'est de donner des outils pour que les gens, s'ils sortent de la salle en se disant ah ben là, c'est vrai ça, j'avais pas pensé. Il y a ça aussi, avec des nouveaux outils, avec des nouvelles pistes de réflexion, en leur montrant des choses. L'image, c'est montrer des choses qu'on n'a pas déjà vues et qui nous permettent de nous projeter dans autre chose. Ouais, c'est un peu ça l'idée.
La durée d'une production varie de combien à peu près ?
Alors c'est long. Moi je mets toujours longtemps parce que je lis beaucoup, je me documente beaucoup. C'est aussi un choix du coup dans la forme qui n'est pas classique et qui n'est pas tellement envisageable dans un système classique. Donc je prends beaucoup de temps pour lire, pour rencontrer des gens, pour échanger sur les sujets. Et puis après, je propose une vision qui est évidemment la mienne. Il y a un parti pris, on est d'accord, comme tout travail de documentariste, je pense. Et l'idée, elle est de proposer cette vision. Moi, je mets souvent au moins 3 ans, voire 4 ans pour faire un film. 3 ans, et souvent, j'ai un an, 2 ans de distribution derrière qui me permet de penser à autre chose. Mais voilà, c'est au moins 3 ans.
Pour ce qui est de la distribution, il existe des circuits pour ce type de documentaire ? Et est-ce que c'est une activité qui vous permet de vivre ?
Alors oui, les circuits, c'est les cinémas Arrécé. Donc moi, le film, il est labellisé, entre guillemets, Arrécé, Et donc, il passe dans les salles de cinéma à réessayer. Et ça, c'est vraiment un choix de ma part parce que la qualité de projection dans une salle, elle n'est pas la même que... Enfin, c'est quelque chose que j'aime bien faire au début. Après, je sais que les films passent beaucoup dans les associations, etc. Mais l'idée de la salle avec cet espace aussi, cet espace dans lequel on se rencontre. Parce qu'en général, les projections, elles sont suivies d'un échange. Alors, ce n'est pas toujours avec moi, mais c'est tout le temps avec quelqu'un qui connaît la question. Et bien, cet espace de rencontre, cet espace d'échange que proposent les cinémas RSC, et bien, je trouve que c'est génial. Dans une société où, justement, voilà, il n'y a plus beaucoup d'espace de rencontre et d'échange.
Rendez-vous donc vendredi 21 décembre à 20h30 au cinéma Le Pestel, cinéma d'art et essai donc à Die, avec cette projection donc du film Être plutôt qu'avoir de Agnès Fouilleux et avec la présence de Philippe Mérieux avec un débat à la suite de cette projection.
Et des enseignants aussi de l'ICEM Pédagogie Freinet, donc qui travaillent en pédagogie freinet.
Vous avez une visibilité sur internet?
Oui, alors le site c'est www.lesfilms.info. Les films au pluriel, donc LESFILMS, .info au singulier, INFO. Et là, on retrouve mes différents films, et notamment ce film-là. Il y a une possibilité d'acheter des DVD. Mais ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est, moi je pousse toujours les gens vers ça, si le film vous a intéressé ou si vous l'avez raté, mais vous auriez aimé le voir, etc., commandez-le à la médiathèque. En fait, les médiathèques, il y a souvent un petit livre sur lequel on peut commander des films. Et ça, ça permet à plein de gens de voir les films. Donc, je trouve... Et en même temps, aux auteurs, parce que ça, c'est difficile de s'y retrouver. Vous m'avez posé la question de savoir si je gagnais ma vie. C'est pas facile. Du coup, là, ça permet de respecter les droits d'auteur et ça permet aux gens de voir le film.
Eh bien, Agnès, merci d'être venue nous présenter ce film et cette projection. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup.
Au revoir.